France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les otages sacrifiés de Niamey. Le 7 janvier 2011, deux jeunes Français de 25 ans, Antoine de Léaucourt et Vincent Delory, boivent un verre en plein cœur de Niamey, la capitale du Niger, lorsque les hommes armés les forcent à les suivre. Ce sont des djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Et très vite, une course-poursuite s'engage. Elle dure toute la nuit et une partie de la matinée, jusqu'à ce que les forces spéciales françaises interviennent. Mais c'est un fiasco. Après de violents affrontements, les otages sont retrouvés morts. La France pleure de nouvelles victimes du terrorisme. Mais la version officielle ne satisfait pas les parents de Vincent Delory, et notamment sa sœur. Ils veulent savoir pourquoi l'armée est intervenue si rapidement, en dépit des risques qui pesaient sur les otages. Et comment Vincent, dont le corps a été retrouvé carbonisé, a perdu la vie. A-t-il réellement été abattu par les ravisseurs, comme l'assure le gouvernement? Dès lors, un long combat judiciaire et médiatique s'engage contre la raison d'État et le silence de l'armée. Notre invitée aujourd'hui, Annabelle Delory, la sœur aînée de Vincent Delory, qui se bat depuis des années avec ses parents pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Elle nous attend dans les studios de France Bleu Nord, à Lille. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Rémi Carayol. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Niamey, 7 janvier 2011. Il est 19h30. La nuit est déjà tombée sur la capitale du Niger quand Antoine de Léaucourt retrouve enfin son ami d'enfance, Vincent Delory, dans le hall de l'aéroport à Mani-Diori. Vincent est un jeune ingénieur. Il vient de Paris. Son vol Air France, assez normal dans son genre, a 3 heures de retard. Mais pas de quoi doucher l'enthousiasme des deux garçons, ravis de se revoir. À 25 ans, ils ont la vie devant eux. Pour Vincent, c'est une première. Il n'a jamais foulé le sol africain. Il faut dire que l'occasion est belle. Dans quelques jours, son copain Antoine va se marier avec une Nigérienne, Raka Hassan Kuka, son amoureuse depuis 2 ans. Antoine vit au Niger, il s'y est installé il y a 6 mois. Il travaille pour l'Aide Médicale Internationale, une ONG humanitaire. Vincent ne pouvait pas manquer cet événement. Après l'effusion des retrouvailles, les deux jeunes hommes filent vers le centre-ville dans la Dejko d'Antoine. Pour rassurer ses parents, inquiets de le savoir au Niger, Vincent s'achète une carte de téléphone et les appelle. « Tout va bien », leur dit-il. Effectivement, tout va bien, les deux amis mangent un morceau. Puis, en attendant un autre invité, dont le vol doit arriver dans la nuit, ils se rendent au Toulousain, un maquis. Mais c'est comme ça qu'on appelle les bars ici. Un établissement très fréquenté, où l'on peut manger brochettes de viande, de poisson, devant un match de foot, anglais ou espagnol de préférence. Il y a là, généralement, beaucoup d'expats, des Français notamment, mais aussi des Nigériens d'ailleurs. Ce vendredi soir, Antoine y retrouve 4 amis. Voilà, donc ils sont là, en train de discuter autour d'une table, lorsque 4 hommes se dirigent vers eux. Il est 22h40. En quelques secondes, le destin des deux jeunes Français bascule. Un témoin raconte au micro de France Inter.
Quand 4 individus armés jusqu'aux dents ont fait irruption, ils sont tous interbannés et ils sont de peau tous blanche et ils communiquaient en langue arabe. Donc ils sont rentrés et les premiers 2 blancs qu'ils ont trouvés, donc ils ont braqué l'arme sur les gens, empêchant aux gens de rentrer et aux gens de sortir. Donc ils ont pris le 2 blancs, ils sont venus le mettre dans leur véhicule, qui est un véhicule de marque Toyota, Toyota 4x4, donc ancien modèle en car. Vitre teintée, immatriculation RB3535. Donc ils les ont pris, ils ont pris le virage. Moi personnellement, j'ai tenté avec mon véhicule de les suivre, histoire d'avoir plus d'informations à communiquer. Mais cela n'a pas été possible parce que le rythme n'était pas le même. Donc ils nous ont semés au 2e virage.
4x4, file à toute allure, direction le nord. À bord du véhicule blanc, 8 hommes armés et enturbannés. Et ils savent ce qu'ils font. Tout a été pensé, préparé. Fausse plaque d'immatriculation, vitre teintée, puce téléphonique à usage unique. Au bar, le Toulousain, on donne l'alerte immédiatement. Pour les Nigériens comme pour les Français, cela ne fait aucun doute. Les ravisseurs, probablement des membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, veulent regagner le Mali au plus vite. C'est à 200 km à peine. Et c'est là-bas que se trouve leur sanctuaire. Les djihadistes, ils sont comme chez eux, ou presque, comme l'explique Bernard Guetta sur France Inter.
Apparue en janvier 2007, l'ACMI est l'une des dernières planètes de la galaxie islamiste, mais elle est directement issue d'un mouvement plus ancien, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Ce groupe fut lui-même le dernier avatar des maquis islamistes qui avaient ensanglanté l'Algérie des années 90, avant d'être démantelé et pratiquement anéanti par l'armée. L'ACMI est autrement dit le fruit de la défaite des islamistes algériens, contraints par la répression de se replier dans les trois pays qui bordent la frontière sud de leur pays, la Mauritanie, le Mali et le Niger, trois États qui, eux, n'ont guère les moyens militaires de les traquer et les combattre. L'ACMI, c'est quelques centaines de desperados qui ont perdu la bataille algérienne, mais auxquels l'immensité de leur nouveau territoire, le Sahel, leurs coups de main et les rançons contre lesquels ils menaillent leurs otages, donnent les moyens d'exister et de nuire.
Face au danger, l'armée nigérienne fait décoller ses hélicoptères. À Tillabéri, la dernière grande ville avant la frontière, la gendarmerie et la garde nationale sont prévenues. Bientôt, à 130 km de Niamey, un véhicule tout feu éteint approche d'une patrouille. Il s'arrête, fait demi-tour. Ce sont les ravisseurs, c'est sûr. Alors une course-poursuite s'engage. Elle durera toute la nuit. Consigne a été donnée de tirer, mais seulement sur les pneus pour ne pas blesser les deux otages. Les embuscades se succèdent, échanges de tirs, changements de direction. Pour semer les forces de sécurité, les ravisseurs s'enfoncent dans les broussailles et se guident à l'aide d'un GPS. À 9h du matin, ce samedi, un deuxième pick-up arrive. Couleur beige, c'est du renfort pour les djihadistes. À son bord, trois hommes armés, mais aussi trois fûts de 200 litres de carburant et une caisse de munitions. Une heure plus tard, les gendarmes tombent nez à nez avec les djihadistes. Ces derniers ont fait une halte et sont plus ou moins caché, sous un acacia en haut d'une dune. Nouvelle escarmouche. Les gendarmes sont débordés. Certains arrivent à s'enfuir. L'un d'eux, le chauffeur, est tué. Et quatre autres sont faits prisonniers. Blessés, ils sont jetés dans leur pick-up bleu. Un djihadiste prend le volant. Ce sont désormais trois voitures qui foncent vers la frontière. C'est alors qu'interviennent les militaires français. Et pas n'importe lesquels. Les forces spéciales, la crème de la crème. Depuis quelques mois, ils disposent d'une base tenue secrète dans la périphérie de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, située à 400 km de là. Voilà quelques années que la situation au Sahel inquiète les responsables français. Les djihadistes se font de plus en plus menaçants dans le nord du Mali. Ils multiplient les enlèvements, de Français notamment. À Paris, on a donc décidé de quadriller la zone au cas où. Dont acte, un plan Sahel est élaboré dès l'année 2009. Et voici ce qu'en dit le général Frédéric Bett, l'officier supérieur à la tête du commandement des opérations spéciales, cette année-là, au journaliste Jean-Christophe Nota.
La situation dégénérait. Il y avait des enlèvements à répétition. Si nous voulions intervenir dans l'une ou dans l'autre de ces prises d'otages, ou faire des opérations coup de poing, il nous fallait des moyens sur place. Le Mali et le Niger ne souhaitaient pas l'installation de forces d'intervention. Mais en octobre 2010, le Burkina, lui, a accepté.
En ce mois de janvier 2011, cela ne fait donc que 4 mois que les commandos français sont positionnés à Ouagadougou en toute discrétion. Officiellement, la force Sabre n'existe pas. Pourtant, il y a là près de 200 hommes, choisis parmi les meilleurs, et quelques hélicoptères. Alors lorsque la nouvelle de l'enlèvement d'Antoine et de Vincent tombe, tous sont sur le pied de guerre. Car c'est pour ce genre de mission qu'ils sont ici. Ainsi, 40 commandos se préparent à intervenir. Trois hélicoptères de combat sont en alerte, trois cougars, dont l'un est muni d'une mitrailleuse de gros calibre. Un dispositif aérien de surveillance est également mis en place au début de la nuit. Quelques heures plus tard, un Atlantique 2, un avion français conçu pour mener des opérations de surveillance, repère les véhicules et les suit à haute altitude. Et là, ils observent à distance les échanges de tirs. Ils assistent aux arrêts des djihadistes, à couvert toujours. Ils voient les renforts arriver. Et ils s'inquiètent quand ils découvrent qu'à quelques kilomètres de là, un convoi d'une dizaine de pick-up lourdement armés arrive dans le sens inverse depuis le territoire malien. Le temps presse. Si on veut avoir une chance de récupérer les otages, il ne faut pas que les deux groupes entrent en contact, surtout pas. Il faut donc intervenir au plus vite, même si la météo est défavorable. Oui, un puissant vent de sable s'est levé. Et même si les hélicoptères risquent d'être à court de carburant. À 9h36, le feu vert est donné, les forces spéciales entrent d'action. Nom de l'opération Archange foudroyant. Comme un mauvais présage. La décision est gardée secrète. Les autorités nigériennes ne sont pas consultées malgré leur parfaite coopération. À 7000 km de là, le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui effectue un voyage officiel en Martinique, donne les dernières nouvelles aux journalistes, mais il ne dit rien de l'intervention de l'armée française.
Deux otages nouveaux ont été enlevés hier soir par quatre hommes armés alors qu'ils dînaient dans un restaurant à Niamey. Ce groupe a immédiatement été pris en chasse par la garde nationale nigérienne pour lui interdire de rejoindre une zone refuge, ce qui constitue une menace grave pour nos otages. Ce matin, en premières heures, il y a eu un premier contact, d'après ce que j'ai appris, entre les terroristes et la garde nationale nigérienne, et le chef du détachement de la garde nationale nigérienne a été blessé. À la minute où je vous parle, il semble, je suis prudent, que la garde nationale nigérienne poursuive les terroristes dans leur progression vers le Mali.
À 10h20, à peine 15 minutes après la fusillade entre les djihadistes et les gendarmes nigériens, les trois hélicoptères français survolent le convoi qui se trouve désormais en territoire malien. Mais l'effet de surprise est raté. Les ravisseurs ont le temps de s'abriter dans la végétation et de se mettre en position de combat. Le premier hélicoptère est criblé de balles. À son bord, deux tireurs d'élite ripostent et tirent sur le moteur du 4x4 blanc, celui à l'intérieur duquel se trouve Antoine et Vincent. L'objectif est bien de l'immobiliser, pas de le détruire. Pendant ce temps, un premier groupe de commandos est déposé à 50 mètres de là. Mission, progresser au plus vite vers les otages. Mais un militaire est blessé, il faut le mettre à l'abri, alors les hommes se replient. Le deuxième groupe est déposé, lui, un peu plus loin, à 300 mètres, sous le feu des djihadistes. D'ailleurs, le pilote de l'hélicoptère est touché. Les combats durent ainsi plusieurs minutes, très violents. Malgré la force de frappe des Français, les djihadistes ne se laissent pas impressionner. Pour briser leur résistance, les soldats au sol demandent un appui au premier hélicoptère. Les tireurs d'élite ouvrent le feu. Ils visent les trois véhicules. Le pick-up beige, celui qui est chargé de fût d'essence, s'embrase immédiatement. Et quelques minutes après, c'est le 4x4 blanc qui s'embrase lui aussi. Au bout d'une trentaine de minutes, les djihadistes prennent la fuite. Les tirs se raréfient, puis s'arrêtent. Et le calme revient dans l'étendue désertique. À 11h, les soldats français arrivent enfin au niveau des véhicules, 23 minutes après l'incendie du 4x4 blanc. Image d'horreur. Ils découvrent les corps sans vie de plusieurs ravisseurs, de trois gendarmes nigériens, mais aussi d'Antoine, un trou dans la tête, et de Vincent, criblé et en partie carbonisé. C'est un carnage. L'opération est un échec total. À Niamey, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Certes, les Européens savaient qu'il y avait des zones à éviter dans le pays, mais ils n'imaginaient pas que dans cette ville si paisible, une capitale où il fait si bon vivre, malgré la chaleur, ils pourraient être des cibles. Après l'annonce du drame, une Française réagit au micro de France Inter.
On ne parle que de ça, évidemment. Bon, les gens ont quand même un peu peur, surtout qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Les Nigériens aussi en parlent, évidemment. Mais surtout les Blancs, même pas que les Français, mais bon, toute la communauté blanche, on va dire, de Niamey en parle. Bah, c'est vrai que tout le monde est surpris que ça arrive à Niamey. Maintenant, il y a déjà eu des enlèvements en Niamey il y a quelques années. On ne sait pas trop, en fait, Al-Qaïda, on n'y croit pas trop, mais on ne sait pas trop. Les gens ne savent pas d'où ça vient.
L'émoi est plus vif encore à Lincelles. C'est dans cette petite ville de 8000 habitants du nord de la France, située dans l'agglomération lilloise, que Vincent et Antoine ont grandi. Ils y ont encore leurs amis, et leurs parents bien sûr. Lorsque tombe la nouvelle de leur mort, une chape de plomb s'abat sur la cité. Une semaine plus tard, des milliers de personnes, dont Nicolas Sarkozy, se réunissent devant l'église pour rendre un dernier hommage aux victimes.
pour rappeler combien Antoine et Vincent aimaient l'Afrique et la musique, leurs proches ont choisi un chant religieux africain pour accompagner la cérémonie. Écrasés par la douleur, leurs familles leur rendent un dernier hommage.
À chaque départ de France, Antoine murmurait à sa maman inquiète, à la manière africaine qu'il avait adoptée, « Ne t'en fais pas, ça va aller. » Le destin en a décidé autrement. Antoine, ce n'est pas un adieu, mais un au revoir.
Dans son homélie, Mgr Ulrich, archevêque de Lille, parle de deux vies broyées par le terrorisme.
Vous vous apprêtiez à vivre un moment de bonheur à Niamey. La violence a broyé l'amour et l'amitié. Que dire quand l'horreur semble plus forte? Oui, vraiment, les mots nous manquent.
La France pleure ainsi deux nouvelles victimes du terrorisme. Car selon les autorités, il ne fait aucun doute qu'Antoine et Vincent ont été abattus par les hommes d'ACMI. C'est ce qu'affirme le porte-parole de l'armée française le jour de leur mort. C'est aussi ce que laisse entendre le procureur en charge de l'affaire, quelques jours plus tard, sur la base d'une première autopsie. C'est enfin le message que fait passer le gouvernement. Alain Juppé, le ministre de la Défense, se fait même très précis. Selon lui, Vincent a été tué de 5 balles de Kalachnikov, l'arme favorite des djihadistes. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Les familles, elles s'interrogent. Fallait-il intervenir? N'y avait-il pas une autre issue possible? L'opposition également émet des doutes. Au nom du Parti Socialiste, François Loncle exige la vérité. Acculé, Alain Juppé reste droit dans ses bottes.
Ne rien faire, c'était prendre un double risque. D'abord le risque de voir nos otages amenés par les ravisseurs dans une de leurs bases refuges du Sahel, et on sait ensuite comment ils sont traités. Ne rien faire, c'est donner un signal que la France, finalement, ne se bat plus contre le terrorisme. Voilà la décision qu'il fallait prendre. Elle était grave, elle était lourde. Nous l'avons prise et nous l'assumons pleinement.
Malgré tout, le doute subsiste. Quelques semaines plus tard, les résultats des expertises médicales et balistiques ravivent l'impression que tout n'a pas été dit, que l'armée a peut-être des choses à cacher. Pour Antoine, en tout cas, c'est assez clair. De toute évidence, il a été exécuté d'une balle dans la tête par ses ravisseurs. Mais pour Vincent, c'est une autre histoire. Il a bien reçu des balles, mais probablement des balles perdues. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas ça qui l'a tué. Peut-être a-t-il perdu la vie dans l'incendie de sa voiture, un feu provoqué par les tirs des militaires français.
Yeah,
Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les otages de Niamey.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Chez les Delory, la famille de Vincent, il y a le père, Gilles, la mère, Jacqueline, et la sœur, Annabelle. Petit roc frêle, lunettes discrètes, mais gros caractère. C'est l'aînée. Elle a 6 ans de plus que Vincent. Et elle ne croit pas à la thèse des autorités. Dès le début d'ailleurs, elle doute. Pourquoi fallait-il intervenir si rapidement? Et qui nous dit que Vincent a été exécuté par ses ravisseurs? Elle veut savoir. Soif de vérité, colère aussi face au cynisme des politiques et des militaires. Annabelle se souvient très bien de ce samedi 8 janvier, quand une délégation officielle a frappé la porte du petit pavillon en briques rouges de ses parents, à Lincelles, pour annoncer la terrible nouvelle. Elle se rappelle cette assurance morbide, ce verdict sans appel. Il n'y avait pas de négociation possible. Vincent et Antoine auraient été torturés, gardés pendant des années dans de terribles conditions. La chaleur du désert, la soif, la peur, lui dit-on. Quelque part, on l'en fait comprendre, c'est mieux ainsi. Mais Annabelle s'interroge. Pourquoi, un mois et demi après la mort de son frère, 3 otages qui avaient été enlevés à Arlit, au nord du Niger, quelques mois plus tôt, et par le même groupe, ACMI, ont-ils été libérés, eux? C'est bien que la négociation est possible. Et si Vincent avait été un employé d'une multinationale comme ces otages-là, et si c'était le fils de Nicolas Sarkozy qui avait été enlevé, et non son frère à elle, comment aurait réagi le gouvernement? Un an après le drame, Annabelle le dit haut et fort.
Le dénouement dramatique de ton enlèvement résulte d'une décision politique, d'une volonté de fermeté à l'égard de terrorisme qui ne t'a laissé aucune chance. Aujourd'hui, nous voudrions que l'on reconnaisse que tu as été sacrifié pour une raison d'État. Tu es mort par et pour la France et nous voudrions qu'on reconnaisse ton martyr.
Les mots sont durs. S'agit-il pour Annabelle d'exorciser la douleur de la perte? Probablement. Mais elle ne parle pas d'envie non plus. Si les forces spéciales ont lancé l'assaut sur le convoi, c'est parce que l'ordre leur a été donné d'intervenir. Les otages français à l'époque se multiplient dans cette région du monde. ACMI en a fait sa spécialité. L'un de ses chefs notamment, Mokhtar Belmokhtar, c'est sa katiba, sa brigade, qui a enlevé Antoine et Vincent. Pour le groupe armé, c'est une source de financement à nulle autre pareille. Et il se trouve que la France paye des rançons. On parle de millions d'euros à chaque fois. Les Français sont donc des cibles privilégiées. Quand Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, en 2007, il est décidé à négocier. « Moi, quand la vie d'un homme est en jeu, les principes, je me les fous dans la poche », affirme-t-il à ses collaborateurs. 3 ans plus tard, en 2010, la France obtient la libération de Pierre Kabat. Enlevé au Mali quelques mois plus tôt, il est échangé contre des prisonniers, des membres d'ACMI et aussi, probablement, contre une grosse somme d'argent. Mais la France est de plus en plus critiquée, par les pays anglo-saxons notamment, qui eux refusent toute négociation, quitte à voir leurs ressortissants exécutés. Par les chefs d'État sahéliens aussi, qui l'accusent de financer le terrorisme en acceptant de payer des rançons. Alors Nicolas Sarkozy change son fusil d'épaule. En juillet 2010, il demande à la DGSE de lancer l'assaut sur un camp djihadiste dans le nord du Mali, afin de libérer un autre otage, Michel Germano, un homme âgé, 78 ans, et malade, enlevé dans le nord du Niger 3 mois plus tôt. Et c'est un fiasco. Germano n'est pas là. 3 jours après, ACMI annonce qu'il a été exécuté.
Après plus de 12 heures d'attente, Nicolas Sarkozy a confirmé ce matin la mort de Michel Germano, tué par ses ravisseurs.
Ils ont assassiné de sang-froid une personne de 78 ans, malade, à qui ils avaient refusé de faire parvenir les médicaments dont elle avait besoin. Je veux m'incliner devant la mémoire de Michel Germano. C'était un homme de bien.
Dès hier soir, sur la chaîne Al Jazeera, la nouvelle fait la une des éditions. La chaîne diffuse la revendication d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Michel Germano a été exécuté, peut-on entendre, dans un message audio.
Malgré cet échec, Nicolas Sarkozy semble vouloir garder la même ligne. La France, désormais, ne négocie plus. Pour autant, il n'est pas question d'abandonner les otages à leur propre sort. Non, il faut tout tenter pour les arracher aux griffes de leur geôlier. Et c'est bien ce qui est décidé dans la nuit du 7 au 8 janvier 2011, en dépit des risques énormes de l'opération. Risques pour les commandos qui ont décollé de Ouagadougou. Risques pour les otages. Du reste, lorsqu'ils sont interrogés par les juges, les militaires ne cachent pas que les chances de réussite étaient très faibles. Voilà ce qu'en dit un chef de patrouille dans le bureau du juge d'instruction.
Peu avant l'assaut, nous savions que le convoi était composé de 3 véhicules, alors qu'au tout début, il n'était question que d'un véhicule. Puis dans la matinée de l'intervention, d'un 2e véhicule. Si nous avions eu des renseignements faisant état d'un renfort important du groupe de ravisseurs, nous aurions demandé l'annulation de la mission d'interception, car les chances de réussite devenaient trop faibles.
Alors pourquoi une telle précipitation, se demande Annabelle Delory. Pourquoi n'avoir pas étudié toutes les options, y compris celle de négocier? S'agissait-il d'envoyer un message aux ravisseurs d'Acmé? Parce que quelques semaines avant le rapt d'Antoine et de Vincent, le groupe djihadiste avait frappé un grand coup. C'était le 16 septembre 2010.
France Inter. On l'a appris en milieu de matinée, un groupe de 7 personnes, dont 5 Français, a été enlevé la nuit dernière au Niger. Il s'agit de personnes travaillant pour 2 entreprises françaises, Areva, spécialisée dans l'extraction d'uranium, et Satom, une filiale de Vinci. Cet enlèvement a été confirmé par le Quai d'Orsay ce matin, Franck Madon. Alors que sait-on précisément des circonstances de cet enlèvement?
Alors ça s'est passé cette nuit à Arlit, dans le nord du Niger, où Areva exploite une mine d'uranium. Arlit, c'est en fait une ville créée par Areva pour que ses salariés puissent vivre dans de bonnes conditions sur place. 7 personnes enlevées, vous l'avez dit. Il y a un employé français d'Areva, un géologue et son épouse. Il y a également 5 sous-traitants qui travaillent sur un chantier de terrassement pour Satom. C'est une entreprise de bâtiment, une filiale de Vinci donc. Et parmi ces 5-là, 3 Français, un Togolais, un Malgache. La zone est normalement sécurisée, mais de nuit, les ravisseurs ont pu déjouer les dispositifs mis en place.
Mais il y a autre chose. Parce qu'il n'y a pas que la décision d'intervenir qui tourmente Annabelle. Elle veut également savoir comment son frère est mort. Car sur cet aspect-là, il y a comme un non-dit. Nicolas Sarkozy lui a promis toute la vérité. Son successeur François Hollande également. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires qui implique l'armée, c'est sur un mur du silence que tombent les familles. Or, au fil de l'enquête, la version initiale a pris du plomb dans l'aile. Et celle d'une bavure a pris du poids. Il y a d'abord les expertises. Contradictoire. Un premier rapport attribue le décès de Vincent à ses brûlures. Rappelez-vous, son corps a été en partie carbonisé dans l'incendie de la voiture. Mais une deuxième analyse parle, elle, d'une mort par balle. Contrairement aux informations initiales, Vincent a reçu de nombreux projectiles. À la tête, dans le dos, au thorax, à l'abdomen. Et les experts ne peuvent pas exclure qu'une balle française ait pu provoquer sa mort. Puis un troisième rapport évoque la thèse d'une plaie thoracique et d'un pneumothorax provoqués, là aussi, par des tirs. Ce rapport précise que Vincent a reçu des balles tirées à longue distance, donc potentiellement par les militaires français. Quoi qu'il en soit, on est loin de l'affirmation initiale d'Alain Juppé selon laquelle Vincent aurait été abattu à bout portant par ses ravisseurs. Et puis il y a ces témoignages recueillis par les juges. Celui des tireurs d'élite appelés Francky et Bruno. Le premier dit avoir tiré 2 fois dans le moteur du 4x4 blanc. Le second admet avoir tiré 10 coups. De fait, le véhicule dans lequel se trouvait Vincent a été criblé de balles. Son flanc droit, le côté où se tenait le jeune Français, présente 11 impacts. Le flanc gauche, 12. Il y a aussi le témoignage de ce djihadiste révélé par Libération en janvier 2012, un an après la mort des 2 jeunes hommes. Il s'appelle Mohamed, alias Mouyaouia. Il a 22 ans. Et avant d'être arrêté en Mauritanie, il était membre de la Katiba de Mokhtar Belmokhtar, celle qui a enlevé Antoine et Vincent. Lors de son audition à Nouakchott par le juge d'instruction français en novembre 2011, Il confirme que l'enlèvement était planifié, que des repérages avaient été organisés. Et voici ce qu'il indique dans le style particulier des PV d'audition à propos de la mort des Français.
Les deux otages se trouvaient à cet instant à bord du premier véhicule avec les mains attachées. Ils étaient encore sains et saufs. Les éléments de la Katiba quittèrent les véhicules afin d'éviter les coups de feu. Faisal Al-Jazari se trouvait en compagnie d'un des otages qu'il retira à une distance proche du véhicule. Mais l'otage précité n'avait plus la force de suivre Faisal. En conséquence, ce dernier l'abattit de plusieurs balles avec sa Kalachnikov. Aucun parmi les éléments de la Katiba n'avait retiré le deuxième otage, qui avait brûlé dans le véhicule à bord duquel il se trouvait.
Enfin, il y a un autre élément qui alimente les doutes d'Annabelle. Ou plutôt, un élément manquant. Les images de l'assaut. Pourtant, l'attaque a été filmée depuis l'Atlantique 2 qui survolait la zone. Mais sur les images transmises au juge par l'armée, il manque une minute. Celle, précisément, durant laquelle le 4x4 blanc prend feu. Voilà qui intrigue forcément la famille Delory et son avocat, Franck Berton.
On sait, je vous le disais, que toute l'opération était filmée. Qu'on nous donne des bandes son et les bandes vidéo. On nous a donné au lieu de ça une bande qui fait 17 minutes et on nous dit dans le reste on peut pas vous le montrer parce que ça comporte des renseignements secrets des forces dessus sur de la stratégie, on pourrait le comprendre, sauf qu'on leur montre une autre bande au ministère de la Défense qui serait issue du document originel qui ne correspond pas au document que la justice a, c'est-à-dire que la justice n'a même pas l'intégralité des pièces. Trois fois on nous a dit, sous trois ministres différents, on nous a dit non, on peut pas vous en donner plus.
Durant des années, la famille se bat pour faire déclassifier ces images. Mais rien n'y fait. Pour expliquer ce refus, le ministère de la Défense argue qu'il ne veut pas révéler, je cite, « certains moyens opérationnels confidentiels ». Élément classique du secret défense. Les Delory et leur avocat, eux, déplorent une enquête tronquée. Il y a les images, bien sûr. Il y a aussi le fait que tous les militaires n'ont pas été auditionnés. Pourquoi ? Même la demande d'ouvrir un supplément d'information pour homicide involontaire est refusée. Et pour cause, cela permettrait au juge de procéder à l'expertise des armes françaises et des éclats retrouvés sur le corps de Vincent. Une issue potentiellement explosive pour l'armée. En guise de compensation, en 2019, les parents de Vincent, comme c'est d'Antoine, se voient remettre une médaille. 8 ans après leur mort, les deux jeunes hommes sont officiellement reconnus par l'État comme des victimes du terrorisme. Mais cette reconnaissance posthume ne soigne ni le chagrin des familles, ni la soif de justice d'Annabelle, ici interrogée par RFI.
C'était important qu'il l'ait pour nous, mais ça ne reconnaît pas tout, puisque ça reconnaît pour lui la partie terrorisme, mais ça c'était indéniable. Par contre, ça reconnaît toujours pas l'implication et la responsabilité de l'État et le sacrifice qui a été décidé. Nous, on voudrait qu'on reconnaisse vis-à-vis de nous, de la famille, que la décision qui a été prise, ça a été de le sacrifier et qu'on l'a sacrifié au nom de l'État et qu'on le reconnaisse, qu'on l'assume, parce qu'aujourd'hui, pour tout le monde, il est mort pour rien, ça a été un dommage collatéral et personne ne veut assumer la décision qui a été prise.
Pour Annabelle Delory, comme pour son avocat, Vincent et Antoine ont été sacrifiés sur l'autel de la raison d'État. Certes, l'enquête se poursuit en France. Au Niger aussi d'ailleurs, où des complices présumés ont été arrêtés. Mais la mort des deux Français dans la steppe sahélienne, à tout juste 25 ans, risque de rester à jamais impunie.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les otages de Niamey. Notre invitée Annabelle Delory, la sœur aînée de Vincent Delory, qui se bat depuis des années avec ses parents pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Bonjour.
Bonjour.
Vous intervenez dans les studios de France Bleu Nord, à Lille. Alors, en avril 2009, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais en avril 2009, un voilier français, le Tanit, a été arraisonné par des pirates somaliens. S'en est suivi une intervention militaire française. L'un des otages a été tué par une balle française. Et la France a admis son erreur. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous attendiez, vous, comme comportement de la part de l'armée française et du gouvernement?
Oui. Oui, exactement. Et je connais très bien l'histoire, puisque j'ai été en contact avec, avec l'épouse de la personne qui a été tuée.
Alors, Où en est l'enquête judiciaire aujourd'hui concernant l'affaire de votre frère et de son ami?
Alors, aujourd'hui, il y a toujours une instruction qui est en cours. Alors déjà, il faut savoir que l'instruction qui est ouverte, c'est une instruction qui porte sur les faits de terrorisme et pas sur les causes de la mort de mon frère. Ça, c'est une extension qu'on avait demandée et, comme vous l'avez dit, qui a été refusée. Donc aujourd'hui, l'instruction est toujours ouverte. On va dire que c'en est au point mort, puisque ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de nouvelles du juge d'instruction, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien de nouveau qui est rentré dans le dossier. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors, on laisse l'instruction ouverte au cas où, ça c'est notre espoir, il y ait des choses qui viennent à émerger, qui des consciences qui viennent à vouloir se soulager et qu'on puisse avancer. Mais sinon, aujourd'hui, du côté de la justice, il n'y a plus grand-chose qui va se passer.
Donc, vous, ce que vous souhaitez, plus fort que souhaité d'ailleurs, ce que vous voulez, c'est que l'armée française reconnaisse... bavure, on peut le dire, que votre frère n'est pas un dégât collatéral, que cette mort aurait pu être évitée, et vous voulez savoir de quoi est mort votre frère. Ça, c'est la deuxième question.
Oui, on veut, en fait, on veut de la transparence, on veut de l'honnêteté vis-à-vis de nous, on veut que l'État, comme il nous l'avait promis, assume. Alors, on demande pas à ce que des secrets d'État soient révélés sur la place publique, on demande de l'honnêteté vis-à-vis de la famille, du respect vis-à-vis de mon frère, pour que ce qui s'est passé serve à quelque chose et effectivement qu'on ne soit pas un dommage collatéral, des empêcheurs de tourner en rond et qu'on passe à autre chose. Quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui.
Et qu'en est-il du film de l'assaut des militaires français? Il manque une minute, apparemment la plus importante. Vous avez pu voir ce film dans son intégralité ou toujours pas?
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a eu tellement de versions, tellement de pièces différentes. On a vu plusieurs films. On nous a dit tout et son contraire. Donc effectivement, la dernière version officielle qu'on nous a servie, c'est que au moment où le 4x4 explose, on filmait ailleurs. C'est dommage, madame, on filmait ailleurs.
Ah oui.
Donc on n'a pas de compétences techniques pour pouvoir dire est-ce que c'est le bon film, est-ce que c'est pas le bon film. C'est des images, faut voir. C'est une qualité qui est quand même assez limité. Voilà, on a plein de versions et en fait c'est ce qui alimente le doute, c'est ce qui alimente la difficulté à passer à autre chose, c'est qu'on a eu tellement de versions qu'aujourd'hui on a vraiment l'impression d'être mené en bateau et de qu'il n'y a pas de respect vis-à-vis de nous par rapport à ça. Enfin...
Mais parce que le postulat de l'armée française selon lequel si des otages sont emmenés par leurs ravisseurs, ça peut durer très longtemps, ça peut être un vrai calvaire, quelque chose de douloureux, des gens maltraités et qui parfois sont exécutés au bout de 2 ans, on l'a vu. Ce postulat, il est acceptable, vous adhérez à ce postulat?
Ah oui, tout à fait.
D'accord.
Ça, on remet pas en question la décision qui a été prise. On n'en a pas la compétence. Par contre, on veut qu'on l'assume et qu'on nous l'explique et qu'on nous dise pourquoi avant on a payé, pourquoi après on a payé et pourquoi pour Vincent et Antoine on n'a pas payé. Quand j'ai rencontré Alain Juppé qui est venu à une des commémorations, je lui ai posé la question. Je lui ai dit si ça avait été votre fils dans la voiture, est-ce que vous auriez pris la même décision? Il ne m'a pas répondu.
Ouais. Une enquête a été ouverte au Niger. Qu'a-t-elle donné pour l'instant?
Pas grand-chose, parce que il y a déjà, bon, vu la situation aussi au Niger, c'est pas évident d'avoir des éléments qui remontent. Il y a des choses intéressantes qui ont émergé, des témoignages qui ont été rapatriés. Maintenant, c'est à chaque fois c'est des témoignages contre témoignages. Il n'y a pas de confrontation entre les différentes versions. Il n'y a pas de lien entre la procédure française et la procédure nigérienne. Donc, il y a des choses qui ont été intéressantes faites côté Niger, parce qu'ils ont été aussi touchés et ils ont été aussi victimes. Maintenant, ça n'a pas beaucoup fait avancer notre histoire.
France Inter. Affaires sensibles.
Annabelle Delory, vous me disiez que vous aviez déclaré devant et en direct à Alain Juppé si c'était votre fils et qu'il ne vous a pas répondu. C'est vrai que la question est terrible. Alors, vous avez rencontré également Nicolas Sarkozy. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Ah, ça, c'était juste après le décès. Il nous a promis la vérité, qu'il ferait toute la lumière sur l'affaire. Il nous a promis qu'il nous reverrait aussi, et on l'a jamais revu. Et pourtant, on l'a sollicité. Bon, après, c'était aussi, il était sur une fin de mandat. Enfin, on n'a plus de nouvelles. Une fois que l'émotion médiatique est retombée, en fait, on n'a plus intéressé personne.
Alors, vous avez vu François Hollande, son successeur, ensuite?
Oui, alors on a eu mis un bon moment aussi à le rencontrer. On avait sollicité parce que on n'a pas laissé tomber le sujet. Et en fait, lui aussi nous a reçus un petit peu avant la fin de son mandat, en nous disant ah oui, je compatis, je comprends, mais bon déjà c'était pas moi. Et puis ça sera bientôt plus moi. Donc on compatit, on vous écoute, mais on vous entend pas en fait. Donc.
Et le successeur du successeur de Nicolas Sarkozy, c'est Emmanuel Macron. L'actuel président, est-ce que vous l'avez sollicité ?
On l'a sollicité également, mes parents l'ont sollicité. Bon, lui ne nous a même pas reçus. Donc aujourd'hui, en fait, on n'intéresse plus personne. Il y en a eu tellement d'autres après nous que c'est plus dans leur priorité. On a des réponses de chefs de cabinet qui nous disent qu'ils sont bien désolés pour nous, quoi, mais qu'ils ont une médaille et qu'on devrait s'en satisfaire. Puis bon, aussi qu'on devrait sans doute dire merci, parce qu'on voit toujours qu'émander.
Oui, l'envoi de la médaille, j'imagine que ça a été pour vous quand même mal reçu, quoi. Une médaille, ça ne peut rien compenser, c'est ça ?
Oui, parce qu'en plus c'est une médaille qui reconnaît l'effet de terrorisme. C'était indéniable, incontestable. Mais nous, on avait à l'époque demandé un autre geste. Symboliquement, je sais bien que ça ne le ramènera pas, mais on avait demandé la Légion d'honneur. Ah non, on rentre pas dans les cases. C'est pas possible, madame. Donc, même pour des choses symboliques, ils ont pas voulu faire d'efforts. On doit toujours réclamer, toujours quémander. Alors que, à la base, on n'a rien demandé, nous.
Alors, si j'ai bien compris, on essaie de comprendre, le fait que vous ne sachiez pas tout des circonstances de la mort de votre frère rend le deuil plus difficile, on est d'accord là-dessus ?
Oui, c'est compliqué. Ouais.
C'est compliqué. Alors, le deuil de la famille d'Antoine est peut-être un peu moins lourd, toujours lourd évidemment, ils ont perdu un de leurs membres, un jeune, ils ont perdu un fils. Il a été tué par des balles djihadistes, on le sait. Est-ce que c'est un deuil différent ? Pour la famille d'Antoine.
Oui, alors on n'a plus beaucoup de contacts et chacun le vit différemment, mais eux, c'est vrai qu'au moins ce point-là, il est clair. Il a été tué d'une balle dans la tête, il a été exécuté. Nous, on ne sait pas. Et on nous a servi tellement de versions différentes sur pourquoi on n'a pas filmé, pourquoi on n'est pas intervenu plus vite, pourquoi on l'a laissé brûler. C'est ça qui, en fait, et on n'arrive pas à passer au-delà de ce film qu'on ne peut pas clôturer.
Alors, dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous vous dites, on saura. Est-ce que vous vous dites, on ne saura pas la vérité ? Ou est-ce que vous avez espoir ? J'imagine que vous avez espoir. Puisque vous continuez le combat, si difficile soit-il.
Oui, aujourd'hui, moi je garde espoir, parce que je me dis qu'un jour, il y a quelqu'un qui voudra soulager sa conscience. Je garde en mémoire ce qui s'est passé pour le Rainbow Warrior, où des années après, il y a quelqu'un qui a parlé. Et ça, c'est mon espoir.
Bon. Alors, parlez-nous de Vincent et d'Antoine, surtout de Vincent. Comment était-il ? Est-ce qu'il avait des rêves ? Qu'est-ce qu'il voulait faire de sa vie ?
C'était un jeune homme, il avait 25 ans, il avait la vie devant lui, il venait d'être diplômé, il était ingénieur, il avait un super poste, il s'était installé à Toulouse. Oui, il avait plein de rêves, plein d'envie de voyage, et tout ça, ça s'est arrêté net, alors que quand il est parti, il a pris aucun risque. Niamey, c'était une zone sûre, il avait fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien, il n'y avait aucune raison que ça lui arrive.
Et quelle était sa relation avec Antoine ? Ils étaient apparemment très amis, depuis quand ?
C'était des amis d'enfance, on a habité le même quartier, ils ont fait toute leur scolarité ensemble, après bon, chacun a pris sa voie en études supérieures, et puis ils ont gardé contact, et le mariage au Niger, ça a été l'occasion de retrouver toute la bande de potes, ils devaient tous arriver les uns après les autres. Vincent, c'est le premier à être arrivé, parce que venant de Toulouse, sur ses avions, voilà, lui est arrivé avant les autres, et il y en a un qui est arrivé, il venait d'être enlevé, leur ami Louis est arrivé juste au moment où il venait d'être enlevé. Le pauvre est resté à l'aéroport.
Et quand Vincent vous a dit qu'il allait en Afrique, dans cette région-là, vous avez été inquiète, vous, ou pas ? Parce
qu'on
connaissait le contexte politique, quand même.
Oui, mais à l'époque, c'était sûr, c'était vraiment une zone qui n'était pas déconseillée par le ministère des Affaires étrangères. Les enlèvements, c'était vraiment dans une zone à des centaines de kilomètres de là. Il y avait pas de. Enfin, moi, j'étais pas inquiète, mes parents un peu plus, mais parce qu'ils partaient. Mais il y avait pas de motif d'inquiétude à l'époque.
Et vous donnez des assurances, il disait bon je vais partir là-bas, c'est lui qui vous disait aussi, et vous le saviez aussi que la situation était plutôt secure, enfin elle était annoncée comme ça, donc il y avait pas de souci particulier.
Non, il est parti, il avait pris toutes les précautions qu'il fallait, comme quand on part à l'étranger, mais il n'y avait pas de raison que ça se passe là, il n'y avait jamais rien eu dans Niamey de cette façon-là, c'était sur des régions beaucoup plus reculées, et là il n'avait pas du tout prévu d'y aller, lui il restait sur la... Et puis il était accueilli par la famille, qui est une famille qui était respectable et fort implantée sur Niamey, donc... Voilà, nous on était rassurés, Antoine connaissait le pays, tout était prévu pour que ça se passe bien.
Une toute dernière question, je sais qu'elle est douloureuse, mais vraiment pour savoir ce que vous avez vécu, comment s'est passée l'annonce de la nouvelle, du drame?
Au départ, on n'y croit pas. Enfin, c'est pas possible. On n'y croit pas. Puis c'est un cauchemar en fait. On a du mal à émerger. Il y a tellement d'emballements autour. Là, on a la vie qui s'arrête quoi. Enfin.
Ouais, bien sûr. En tout cas, merci infiniment pour votre témoignage, Annabelle Dolory. Vous voyez que tout le monde n'a pas oublié, hein. Notamment cette émission. On a parlé.
Merci.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, les otages sacrifiés de Niamey. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast à la technique. Il y avait Clément Berman.